Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Histoire de vin, je vous emmène en Provence découvrir un vignoble millénaire et son vin réputé dans le monde entier que tout amateur a dégusté au moins une fois, le Châteauneuf du Pape. En retraçant 2000 ans d'une histoire absolument unique, façonnée par des personnages exceptionnels, je vous invite à découvrir le terroir castelpapal et ses vins mêlant avec gourmandise la richesse et la générosité à la finesse et la séduction. De la papauté d'Avignon au règne de Louis XV, d'Alexandre Dumas à la création des AOC, des atterrissages d'OVNI à la recette du curry, je vous raconte aujourd'hui Châteauneuf-du-Pape, la première appellation de France. Si vous descendez la vallée du Rhône depuis le nord, après Montélimar, vous verrez le paysage s'ouvrir à hauteur de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sur une plaine faiblement vallonnée et dominée par la masse imposante du Mont Ventoux. Arrivés à Orange, vous prendrez la départementale 68 qui serpente vers le sud à travers les vignes jusqu'à croiser une petite route sur votre droite avec une arche en pierre. Passez sous l'arche et vous arriverez au bout d'une centaine de mètres au pied d'un vieux château en ruine dont il ne reste qu'un mur d'enceinte et un donjon à demi effondré. Au pied de la tour, une terrasse dévoile à vos yeux un vaste panorama, des montagnes du Luberon au loin jusqu'à la cité d'Avignon et aux berges du Rhône. À vos pieds se niche un petit village comme un îlot au milieu d'une mer de vignes d'un vert brillant sous le soleil. Vous êtes arrivé à Châteauneuf-du-Pape. Les cadastres de l'empereur Vespasien établis en 77 et des archives du XIe siècle attestaient déjà de l'existence d'un village fortifié sur cette colline, appelé alors Castrum Novum. En 1157, le village devient une possession épiscopale de l'évêque d'Avignon et change bientôt de nom pour devenir Châteauneuf-Calcernier, ce terme faisant référence à la chaux produite en grande quantité sur la commune. En 1309, la papauté s'installe à Avignon et commence alors une période faste pour le village, avec la construction du château et le développement du vignoble. Si l'achat de vin du cru est attesté pour le palais des papes, il semblerait que les souverains pontifes n'aient peut-être pas fait autant pour sa promotion qu'on le dit couramment. Dans son ouvrage « Le désir du vin », publié chez Artem Fayard en 2009, l'historien Jean-Robert Pitt suggère d'ailleurs que les papes étaient sans doute plus amateurs de Bourgogne, ce qui expliquerait que la renommée de Châteauneuf soit restée en retrait par rapport au vin de Bordeaux, de Bourgogne ou d'Anjou dans les siècles suivants. Néanmoins, un domaine arrive très tôt à se faire connaître et à se forger une réputation d'excellence, le château Lanerte. En 1560, la famille Tulle de Villefranche achète une propriété dans le village et ambitionne d'en faire un domaine phare de la vallée du Rhône. Ils lancent la construction d'un château et commencent à vendre des vins en bouteille à partir de 1776, ce qui est une révolution dans la région pour l'époque. Grands voyageurs et ambassadeurs de leur vin, ils vendent bientôt leur cru de Lanerte aux meilleures tables de France et d'Europe et commencent à exporter en Amérique du Nord dès 1786. Dans son grand dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas citait d'ailleurs le vin de Lanerte comme l'un des crus que tout amateur devait avoir dans sa cave pour bien recevoir et marier mets et vins à la perfection. Mais vers la fin du XIXe siècle, un ennemi terrible, quoique minuscule, vient frapper au cœur le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, le phylloxéra. Le phylloxéra est un puceron ravageur de la vigne qui vit dans le sol et ponctionne les racines pour se nourrir. Ce faisant, il entraîne une dégénérescence de la plante qui meurt en quelques années. Originaire d'Amérique du Nord, il est repéré pour la première fois en France en 1861 près de Roquemort à 10 km de Châteauneuf-du-Pape. En quelques années, le phylloxéra va détruire les vignes de Châteauneuf et près de 80% des vignobles européens avant qu'une solution ne soit finalement trouvée. Le greffage du pied de vigne européen sur une souche américaine immunisée contre le parasite est communément appelé porte-greffe. Les racines de la plante américaine étant insensibles à la piqûre du parasite, qui est toujours présent dans nos sols aujourd'hui, le greffon, avec la variété originale, peut se développer et produire à nouveau. Cette solution très efficace va permettre la reconstitution du vignoble castelpapal à partir de 1878. Et paradoxalement, le phylloxéra va représenter une chance pour le village. le grenache noir, principale variété plantée dans l'appellation, ayant la capacité de survivre et de produire pendant des décennies, l'AOC possède aujourd'hui une proportion élevée de très vieilles vignes avec de nombreuses parcelles centenaires. En 1877, ravagé par le phylloxéra, le célèbre château Lannert est racheté par le commandant Joseph Ducos, qui entreprend avec ardeur la restauration du vignoble du domaine. Devant le succès de sa méthode, les autres vignerons suivirent son exemple et le vignoble fut replanté. Ducos voulait avant tout préserver les anciennes qualités et le caractère des vins de son domaine. Aussi, il s'attache à greffer seulement les variétés traditionnelles du pays, à la fois en rouge avec le Mourvèdre, le Grenache ou la Syrah, mais aussi en blanc avec la Clairette ou le Picpoule, définissant par là même 13 cépages qui deviendraient la base de tous les vins du cru. Joseph Ducos, devenu député maire de la commune, est aussi accrédité d'un formidable coup marketing en 1893, abandonnant le nom de Châteauneuf-Calcernier pour renommer le village Châteauneuf-du-Pape. À la génération suivante, le flambeau de ce pionnier visionnaire sera repris par un autre personnage exceptionnel qui va transformer à jamais le paysage viticole français, le baron Leroy. Pierre-Gabriel Vincent-Ernest Leroy de Boiseau-Marié, dit le baron Leroy, est né le 5 avril 1890 dans une famille normande et passe son enfance à Vendargues dans le département de l'Hérault. C'est un jeune homme travailleur qui entreprend des études de droit pour devenir avocat et fait preuve dès sa jeunesse d'un caractère résolu et d'un tempérament fougueux. Il est à l'université de Montpellier quand éclate la révolte des vignerons languedociens en 1907. Pour empêcher la troupe cantonnée dans le palais de justice de sortir et de tirer sur la foule, il met le feu à la porte. Sa témérité va d'ailleurs faire de lui un héros de la Grande Guerre après avoir obtenu son brevet de pilote militaire en 1916. Avec 5 victoires homologuées, il devient officiellement un des 186 as français de la Première Guerre mondiale. Les as, c'étaient ces pilotes exceptionnels qui avaient abattu au moins 5 avions ennemis. Blessé au combat à 2 reprises, fait prisonnier en 1918, il sera décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre à 3 palmes avec citation à l'ordre de l'armée et fait chevalier de la Légion d'honneur à la fin de la guerre. En 1919, il épouse Edmée Bernard Le Saint, héritière du château Fortia de Châteauneuf-du-Pape, qu'il a rencontré lors de ses études de droit. Renonçant au barreau, le baron Leroy se consacre dès lors à son domaine et s'attelle aux graves problèmes auxquels fait face le vignoble à l'époque. Baisse de la qualité suite au phylloxéra, fraude sur l'origine des raisins et achat par les négociants de Beaune ou de Tain-l'Hermitage des vins de Châteauneuf pour renforcer leur propre vin dans les années difficiles. Appelé à l'aide par les vignerons connaissant sa formation de juriste, il leur dit « Je veux bien, mais à une condition, c'est que vous donniez vous-même l'exemple de l'honnêteté et de la discipline. » Il crée donc en 1924 le syndicat des vignerons de Châteauneuf-du-Pape avec d'autres figures locales. Il instaure une réglementation sur les modes de culture et de vendange, fixe un degré minimum d'alcool et reprend la liste de cépages autorisés établie par Ducos. Se basant sur une législation déjà en vigueur pour les fromages comme le Roquefort depuis 1925, il milite pour la création d'une, je cite, « appellation dont le nom garantit l'authenticité et la qualité d'un produit ». Une appellation basée sur une aire de production délimitée et des règles de production strictes. En 1933, la Cour de cassation lui donne raison et le 15 mai 1936, le décret d'appellation est publié, faisant de Châteauneuf-du-Pape la première AOC viticole de France en même temps que les vins d'Arbois, de Cassis, de Montbazillac et de Tavel, ainsi que l'eau de vie de Cognac. Dans les années qui suivent, toutes les régions françaises suivront l'exemple pour constituer le système de référence dans le monde du vin, repris ensuite dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne. On lui doit également l'introduction en 1939 de la bouteille armoriée avec les clés de Saint-Pierre et la tiare papale qui permet d'identifier au premier regard les vins du cru. Président de l'Institution nationale des appellations d'origine pendant 20 ans et fondateur de l'Académie du vin de France, il meurt le 16 juin 1967. Le vignoble de Châteauneuf-du-Pape compte aujourd'hui 3200 hectares répartis sur 5 communes et cultivés par 320 producteurs indépendants. Le climat y est méditerranéen, chaud, et c'est le plus sec des Côtes-du-Rhône avec la majorité des précipitations en hiver. Mais il est surtout vanté avec le fameux Mistral, ce vent du nord puissant et soutenu qui a déjà été mesuré à plus de 300 km/h au sommet du Mont Ventoux. Le Mistral rafraîchit et assèche l'air, ce qui limite le développement des maladies de la vigne et contribue à concentrer les raisins par dessiccation. L'aire d'appellation Châteauneuf-du-Pape est marquée par une diversité géologique que le géologue Georges Truc distingue en quatre grands types de terroirs. Il y a d'abord les éclats calcaires, dans l'ouest de la Haussée, près des berges du Rhône, des affleurements calcaires qui servaient autrefois de carrières de chaux et qui conviennent très bien aux cépages blancs comme la clairette, le grenache blanc ou la roussanne, qui y acquièrent une belle tension minérale et une acidité aiguisée qu'on retrouve notamment dans les vins blancs du château Vaudieu. Au vin rouge, ce terroir calcaire confère une structure droite, un grain de tanin presque crayeux et une acidité qui apporte un équilibre remarquable dans des vins tels que la cuvée Bois-Renard du domaine de Bornard. À l'est et au nord-ouest de l'appellation, on trouve des safres. Ce sont des coteaux sableux qui représentent près d'un tiers du territoire. Le grenache noir se plaît particulièrement sur ces sols très drainants et y donne des vins rouges complexes et suaves avec des tanins d'une grande finesse comme au château Rayas ou au domaine de la Vieille Julienne. Au nord et au centre de l'appellation, on trouve des terrasses alluviales du Rhône couvertes des fameux galets roulés par le fleuve à l'ère quaternaire. Ces gros galets de couleur beige couvrent les zones de Lacro ou de Mont-Renon et offrent un double avantage. Ils emmagasinent la chaleur pendant la journée pour la restituer durant la nuit, favorisant ainsi la maturation des baies. De plus, comme ils ne retiennent pas du tout l'humidité, ce qui limite le risque de maladie, l'eau de pluie coule à travers pour s'infiltrer dans les sous-sols d'argile rouge où elle est protégée du soleil et de l'évaporation par cette couche de cailloux. Cette réserve d'eau, essentielle dans un climat méditerranéen, convient parfaitement au grenache ou au mourvèdre qui donnent ici des vins charnus et puissants, comme au domaine du Pégot ou du Vieux Télégraphe. Sur ce terroir unique, les vieilles vignes produisent certaines des cuvées les plus célèbres de l'appellation, comme Hommage à Jacques Perrin du château de Beaucastel ou la cuvée des Cadettes du château Lanerte. Au centre-est du territoire, on trouve les grès rouges, mélange de grès, d'argile et de calcaire décomposé. Ce terroir minoritaire dans l'appellation convient aussi bien aux cépages rouges que blancs et produit des vins sur l'élégance et la finesse, le plus souvent utilisés dans des cuvées d'assemblage. À la complexité géologique des terroirs s'ajoute la grande variété de cépages plantés dans l'appellation. Le terme de cépage correspond à une variété de l'espèce de vigne Vitis vinifera, utilisée pour la production du raisin. Pour les autres fruits, tels que les pommes, on parle de variétés, Fuji, Gala, Golden. Pour le raisin, on parle de cépage. À Châteauneuf-du-Pape, sont autorisés les 13 cépages listés par Joseph Ducos voilà plus d'un siècle. Le grenache, le mourvèdre, la syrah, le cinsault, la counoise, le muscardin, le vacarès et le terrain noir en rouge. Ainsi que la clairette, le bourboulinque, le picpoule, la roussanne et le picardant en blanc. Sont également autorisées les mutations de ces cépages dans d'autres couleurs, comme le grenache blanc par exemple. Cette extraordinaire diversité permet aux vignerons de rechercher l'adéquation parfaite entre les différents types de sols et les cépages qui s'y exprimeront le mieux, comme un compositeur choisit l'instrument pour chaque partition. L'âme de Châteauneuf, c'est le grenache. C'est lui qui lui donne sa chair, son moelleux et son fruité croquant de fraises ou de cerises presque confites. La charpente des vins est donnée par le mourvèdre, cépage très riche en tanins et en couleurs, qui apportent ces arômes de mûre, d'olive noire et de gibier, et leur confèrent une grande longévité. La syrah amène des tanins fins et une complexité aromatique supplémentaire grâce à ses notes de cassis, de violette et de poivre. Les autres cépages rouges ne constituent le plus souvent qu'une faible part de l'assemblage, mais ils apportent des nuances appréciables comme des épices dans un curry. Le cinsault et ses arômes d'amande, les notes épicées de la counoise, la fraîcheur du muscardin, et les parfums floraux du vacarès et du terrain noir. Si les vins rouges représentent près de 93% de la production, on trouve aussi 7% de vins blancs. mais aucun rosé. La clairette confère au blanc leur texture onctueuse ainsi que des arômes de pommes et de pamplemousse, quand le grenache blanc amène sa puissance en bouche et ses nuances anisées. La vivacité provient le plus souvent du bourboulingue, alors que la roussane leur donne du gras et des parfums floraux. Enfin, les notes de pêche du Picpoul et la douceur musquée du Picardon viennent compléter la palette des vins blancs de Châteauneuf-du-Pape. Si l'assemblage Grenache-Syrah-Mourvèdre domine l'appellation, on trouve les 13 cépages dans quelques cuvées, souvent parce que les variétés sont complantées, c'est-à-dire mélangées dans le vignoble au sein d'une même parcelle. Dans les années 2000, la famille Coulon du domaine de Bornard a replanté à parts égales un conservatoire des 13 cépages issus de vieilles vignes du domaine et produit d'un premier millésime en 2012 baptisé Grande Partita, en hommage à la sérénade KV361 de Mozart jouée par 13 instruments. Le résultat est un vin délicat, d'une grande finesse et d'une complexité aromatique exceptionnelle. La variété des terroirs et des cépages de Châteauneuf, alliée à la diversité des méthodes de conduite du vignoble, de vinification, et pour tout dire, de philosophie de ces vignerons, a façonné au fil du temps une des appellations les plus complexes du pays. Mais au-delà de leurs différences, tous les vins de Châteauneuf partagent des traits communs qui ont forgé leur réputation. Un caractère généreux et une profondeur fascinante qui font de ce petit village du Vaucluse une des figures de proue du vignoble français. Mais si le village de Châteauneuf-du-Pape a su acquérir une renommée mondiale grâce à son histoire et à ses vins, il le doit peut-être aussi au caractère visionnaire et malicieux de certains de ses édiles. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter deux anecdotes qui ont contribué à faire connaître la commune. À l'automne 1954, la France connaît une vague d'observations d'objets volants non identifiés. Réalisant la possibilité de faire un buzz au bénéfice de sa commune, le maire Lucien Lejeune rédige le 25 octobre un arrêté manuscrit en ces termes. Le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants de quelque naturalité qu'il soit sont interdits sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Tout aéronef dit soucoupe volante ou cigare volant qui atterrira sur le territoire de la commune sera immédiatement mis à la fourrière. Le garde champêtre et les gardes particuliers sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Depuis 70 ans, cet arrêté, toujours en vigueur aujourd'hui, a valu à la mairie de recevoir régulièrement lettres et demandes d'interview tant de la part de médias français et étrangers que d'ufologues amateurs à travers le monde. Une galéjade qui s'est avérée être au fil du temps un formidable coup de pub, et gratuit. Si vous venez en visite à Châteauneuf-du-Pape pour découvrir son vignoble et ses caves, il se peut que la fatigue s'empare de vous après quelques dégustations. Rassurez-vous, la commune a tout prévu depuis un arrêté de 1970, à une époque où pourtant les questions d'alcoolémie n'étaient pas centrales. Et qui dit ceci. Attendu qu'il y a lieu de protéger tout visiteur de nos chais pouvant être victime d'une dégustation trop riche de nos vins, il est créé, par la commune, des emplacements réservés permettant aux dégustateurs en difficulté de se reposer avant de reprendre leur route en toute sécurité. Pendant cette prolongation de séjour, ils seront placés sous la sauvegarde d'une autorité locale qui les entourera des soins les plus attentifs et décidera seul de leur départ après contrôle des conditions exigées par la loi. S'il vous plaît de découvrir un jour le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, je vous invite à venir en Provence pour vous perdre dans ce superbe paysage de vignes à deux pas d'Avignon et à découvrir les caves des nombreux producteurs du village. Vous pourrez y déguster, avec modération bien sûr car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la grande variété des vins du cru et explorer par vous-même le terroir fascinant de la première appellation viticole de France.